avec Benoît Marchal.
Bienvenue. Bienvenue pour le 75e épisode Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude. L'édito, qui sera consacré à l'atelier RFI. Le segment principal, qui est une rencontre avec Yann-Peter Louis, qui est un photographe indépendant parisien et un auditeur de Déclencheur. Et enfin, le troisième segment, traditionnel, avec vos commentaires et vos réactions. Notez dès à présent l'adresse du blog, www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez vous abonner, et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement. L'email, l'iTunes ou l'abonnement RSS, et donc Netvibes et tous les autres agrégateurs. C'est là également que vous pourrez poster un commentaire, poster une réaction ou retrouver tous les liens de l'épisode. Premier segment, l'édito. Et je vais vous parler de l'atelier RFI. Alors l'atelier RFI, c'est une expérience de radio collaboratif qu'a menée RFI, Radio France Internationale. Donc il s'agissait en fait d'une émission s'appuyant sur un blog qui invitait les auditeurs en fait à participer, à apporter leur expérience dans l'émission. C'est évidemment le genre de projet sur l'évolution des médias qui moi me passionne. Et donc j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Je trouve que dans les différents projets qu'on voit actuellement sur le paysage audiovisuel franco-belge, c'est un des plus réussis parce que le projet a vraiment été construit autour d'un élément collaboratif. Très souvent, malheureusement, les émissions s'adjoignent un blog pour faire à la mode, exactement comme il y a 10 ans, on faisait imprimer une URL sur sa carte de visite pour faire à la mode, même si derrière, le site web n'existait pas encore. Et là, dans l'atelier RFI, il y a vraiment une volonté de collaboration avec les auditeurs. Le blog était un outil pour construire l'émission. Ça, c'est vraiment, j'ai trouvé, très très intéressant. Il se fait que deux des thématiques m'intéressaient, donc sur ces deux thématiques-là, j'ai réagi. Et comme j'étais à Paris la semaine dernière pendant l'enregistrement de l'émission de conclusion, Philippe Couve a eu la gentillesse de m'inviter à y participer. La discussion qu'on a eue sur antenne et hors antenne, d'ailleurs, était vraiment passionnante. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je me réjouis d'apprendre que RFI va prolonger l'expérience. Évidemment, je suis un peu biaisé en disant ça. Je crois énormément à la production collaborative. C'est pour ça aussi qu'on a deux oiseaux dans le logo, pour avoir deux personnes qui se répondent. Je vous mettrai l'adresse sur le blog de Déclencheur, allez y jeter une oreille, c'est intéressant. Mais regardez aussi la manière dont les émissions ont été construites. Je crois que dans quelques années, on regardera l'atelier RFI comme un précurseur dans l'évolution de l'audiovisuel français. Deuxième segment, donc une rencontre avec Peter Yann Louis.
Bonjour Peter.
Bonjour Benoît.
Tu es photographe indépendant, c'est ça ?
Exactement.
Alors raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment es-tu arrivé comme ça à vivre de la photographie ?
Alors, j'ai découvert la photographie quand j'étais aux Pays-Bas, tout simplement parce que j'avais un cousin qui faisait de la photo. Ça m'a bien plu, puis après j'ai fait des études de commerce, donc ça avait rien à voir. Et en fait, en 1998, alors que ça faisait déjà plusieurs années que je faisais de la photographie en amateur, je me suis décidé en fait à suivre des cours de photographie dans les cours du soir de la mairie de Paris. Et puis ça m'a amené en fait, après j'ai fait du filmage, et puis un jour je me suis mis à mon propre compte en fait.
Filmage, ça veut dire ?
Donc du filmage, c'est de la photographie d'entreprise en fait. Du filmage, c'est quand on va dans un cabaret ou quand on va dans une plage et qu'on photographie tout le monde. Donc c'est de la photographie très commerciale, mais en même temps ça entraîne beaucoup à travailler en fait.
Quand on a préparé un petit peu l'interview, tu me disais que tu as fait pendant pas mal de temps de la photo de mariage et que ça t'a aidé à te lancer.
Oui. Donc effectivement, après le filmage, j'ai fait donc de la photographie de mariage, donc du reportage de mariage, et effectivement, c'est un marché, une fois qu'on connaît bien le déroulement en fait de cet événement, et qu'on a bien maîtrisé, qu'on a bien compris ce qu'attendaient les mariés et la famille du photographe professionnel, ça devient une activité qui peut être rentable, même si à terme, effectivement, bon, on a l'impression, même si les mariés changent, au bout d'une centaine de mariages, le mariage devient quelque chose de connu et on est en terrain connu en fait. Dans la photographie de mariage, ce qu'il faut savoir, c'est que on photographie pas pour faire de belles images, on photographie pas pour se faire plaisir, on photographie pour répondre à une commande. Cette commande a été placée par les mariés et effectivement, comme un DJ peut proposer de la musique qui plaira à tout le monde, un photographe doit présenter des photos qui plaisent à tout le monde. Aussi bien faire le cadrage classique, basique, les mariés enlacés avec quasiment une image plate, donc vraiment devant un paysage, point bien cadré avec la règle des tiers, que effectivement une image beaucoup plus contemporaine dans le style, faite au grand angle, légèrement en plongée, avec un premier plan très présent. Ça, c'est il faut aussi bien une photo pour mamie que une photo pour les mariés. Et ça, faut d'abord le faire comprendre aux mariés parce qu'ils vont arriver et puis demander effectivement un style particulier. Il faut leur dire d'accord, je vais faire ça, mais à côté de ça, je vais vous en proposer d'autres pour que toute la famille s'y retrouve. Et c'est à partir de ça, effectivement, qu'on fait un bon reportage de mariage.
Justement, en reportage, du reportage de mariage, tu es passé au photojournalisme, donc maintenant tu fais des reportages sur les thèmes les plus variés.
Voilà. J'ai suivi une formation de photojournalisme à l'EMI-CFD. Cette formation, en fait, m'a appris les bases, en fait, de la photographie de reportage sur comment on cherche une idée, comment on trouve les interlocuteurs, et puis, à partir de ça, comment réaliser toute une prise de vue et en faire quelque chose qui soit un bon contenu, qui soit pas juste un contenu illustratif, en fait. Donc voilà. Donc là, je suis passé dans ce cadre-là et effectivement, ça démarre tranquillement.
D'accord. Et alors, en deux mots, la technique pour construire la bonne image dans le reportage, c'est quoi ?
La bonne image dans un reportage, en fait, je pense que il y en a quelques-unes, mais et encore, c'est pas le but. Le but d'un reportage étant de proposer une série d'images cohérentes qui transmettent une information. Il vaut mieux avoir... il faut ce qu'on appelle une double pour le reportage. Par contre, il faut s'assurer de...
Une double page.
Il faut y avoir une double page pour présenter le sujet, qui soit une image frappante, qui puisse effectivement introduire le sujet et résumer en partie l'information qui s'y trouve, quitte à développer l'idée un peu plus loin. Mais on réfléchit plus après en termes d'image, mais en termes d'idée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire aux personnes qui vont regarder cette photo? Je vais pas construire une image dans le but que toute l'information y soit contenue. Une image qui serait sortie de son contexte ne voudrait peut-être plus rien dire, d'accord ? Donc il faut qu'elle soit présentée en série de telle façon à pouvoir effectivement développer cette idée. Mais aujourd'hui, le manque de place dans pas mal de journaux au niveau du reportage, parce que pour l'illustration il y a tout ce qu'il faut, fait que ça devient de plus en plus difficile et que des fois on doit résumer toute une idée sur trois photos et des fois ça devient difficile en fait.
Quelle différence est-ce que tu fais entre l'illustration et le reportage ?
L'illustration c'est simple, c'est une photo en imaginant, j'ai une photo de bateau devant la tour Eiffel. Elle peut aussi bien parler de la montée des eaux et que le zouave va avoir les pieds dans l'eau, indiquant que Paris commence à être inondé, que tout simplement parler du tourisme à Paris. Ça, c'est de l'illustration. Alors que si vraiment j'ai envie de parler d'inondation dans Paris, si j'ai une vraie photo d'inondation avec le zouave, les pieds dans l'eau, là, on arrive déjà au reportage. Le reportage exprime vraiment une idée qui sera plus difficile à travestir qu'une image d'illustration qui est faite pour être prise par beaucoup de sujets qui sont liés mais qui sont pas forcément dans la même optique.
Si on revient un petit peu sur la discussion qu'on avait tout à l'heure quand tu as parlé de photos de mariage, le fait qu'il fallait couvrir différentes constructions, des photos plus contemporaines, des photos plus statiques, qu'est-ce qui fait qu'une photo va être dite contemporaine ? Est-ce que ça correspond à une évolution des goûts ? Qu'est-ce qui fait que la mamie veut autre chose que les mariés ?
Alors, il faut savoir d'une part que tout simplement l'évolution des techniques est due tout simplement à l'évolution du matériel. Aujourd'hui, on voit des 14 mm avec des profondeurs de champ et des perspectives absolument démentielles. Donc, objectif qui n'existait pas, en tout cas qui n'était pas communément utilisé il y a une trentaine d'années. Donc, les seniors, en fait, aujourd'hui, sont habitués à avoir une photo faite au 50 mm, voire au 35, prise simplement, en fait, à mi-chemin en hauteur, sans travail en plongée contre plongée. Aujourd'hui, il y a une certaine demande pour de la photo qui impressionne, qui montre des effets sans avoir besoin de travailler en Photoshop. On va l'obtenir déjà avec un grand angle, avec un premier plan très présent, par exemple une moitié de visage qui apparaît sur un côté, avec le reste de l'action qui se passe sur la droite. Ça, ce sont des cadrages un peu plus contemporains. Travailler la plongée, la contre-plongée, ça c'était des choses qu'on faisait mais qu'on utilisait un peu moins. Aujourd'hui, c'est vraiment faire de la photo au flash, déboucher des ombres. Avant, on préférait les lumières naturelles. Aujourd'hui, un flash bien maîtrisé, on va créer soi-même son éclairage. Voilà, ça c'est ce que j'appelle la photographie un peu plus contemporaine. Alors que, rappelons-nous des photos de mariage qui se faisaient au début du siècle, c'était la photo posée, les deux mariés qui regardent l'objectif 35 mm à hauteur du buste, de telle façon à avoir absolument aucune déformation optique et donc ne pas déformer les sujets par la même occasion. Donc voilà, donc c'est tout ça qui fait que en fonction du spectateur, en fonction du lecteur, on puisse choisir le point de vue et le style de photo qu'on aime.
Je ne veux pas citer de nom, mais je pense à un photographe dans ma région qui fait des photos de mariage et je déteste ces photos parce que il est absolument impossible sur la plupart d'entre elles de comprendre même que c'est une photo de mariage. Elles sont tellement déconstruites qu'on ne s'y retrouve plus.
Mais c'est, je ne crois pas que ce soit lié à la photographie, mais c'est lié à une vision de l'art d'aujourd'hui. Effectivement, en fait, moi j'ai une anecdote, c'est simplement l'année dernière, la galerie Tate qui a commandé donc à des sculpteurs voulant faire de nouvelles acquisitions. Finalement, c'est une personne qui a été retenue pour un cube en béton. Donc, ils ont contacté ce sculpteur dont j'ai pas le nom. Et il leur a dit, mais attendez, vous avez juste eu le socle. Voilà. Donc, j'ai vu ça sur un fil AFP il y a l'année dernière. J'ai bien rigolé. Donc, à partir de ce moment-là, la photo a suivi exactement. Tout est déconstruit. Donc, ça prouve qu'il y a énormément de création. On est dans une époque très créative et c'est une bonne chose. On a décidé de squeezer la règle des tiers une fois qu'elle est bien maîtrisée. Faut attendre de bien maîtriser la règle des tiers, par exemple, pour pouvoir s'en affranchir. Mais à côté de ça, on fait tout et n'importe quoi. Donc si tout le monde se met à faire du Duchamp, effectivement, on risque d'aller loin dans la photographie. Si les clients suivent, très bien.
Oui, donc d'abord étudier ce que les autres ont fait, comprendre ce qu'ils ont fait et puis venir avec sa touche personnelle.
Voilà, exactement. Parce que c'est pas parce que y a deux, trois amis qui nous disent « vous faites de bonnes images » que automatiquement on devient un bon photographe. Je reprends la plupart des photos que j'ai faites quand j'étais amateur dans les 2-3 premières années, je me dis, mais j'ai eu un vrai coup de chance. J'ai vraiment eu un vrai coup de chance. Certains contre-jours bien travaillés, ça a été l'expo de l'appareil qui a bien fait. Je ne l'avais même pas forcément vu comme ça. Et puis, à partir d'un moment où on se dit, bah tiens, j'ai eu un coup de chance, je vais essayer de le reproduire. Le jour où on est capable exactement de reproduire l'image telle qu'on l'a imaginée, c'est qu'on commence à arriver dans le domaine professionnel. Et à partir de ça, effectivement, le jour où on dépasse, c'est qu'on a de, les idées sont vraiment meilleures, de telle façon à pouvoir arriver sur n'importe quel terrain et se dire, bon, très bien, il y a ce que je sais faire, qu'est-ce que je vais essayer d'apporter de nouveau dans ma prise de vue que je n'avais pas été exploré. Alors, on peut prendre les idées sur ce qui se fait ailleurs, hein. C'est normal, c'est, l'art s'est toujours construit sur ça, c'est-à-dire qu'on bénéficie aussi des innovations des autres, pas non plus faire de la copie, il faut toujours apporter sa propre touche, mais à partir de ça, arriver et puis présenter de nouvelles idées, essayer soi-même d'améliorer sa prise de vue. Je sais plus qui disait ça, mais j'ai trouvé ça très juste. La photo, en fait, personnellement, je l'ai appris dans un livre de 60 pages, un livre de poche d'Edouard Bouba. Voilà, donc je l'ai lu 2 fois et j'avais tout compris la prise de vue. Il me faudra toute une vie pour appréhender la lumière.
Comment est-ce que tu fais pour savoir, tiens, voilà la photo que la personne veut, et donc pour pouvoir lui délivrer la photo qu'il attend.
Alors tout simple, alors on fait parler les gens, tout simplement. Quand une personne m'appelle pour exactement, moi je préfère passer une heure à demander quel type de photo vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, quel est le style d'image que vous aimez, quelle est l'information que vous voulez que je retranscrive. J'hésite pas à poser des questions, pour savoir effectivement, tout simplement. Moi, je me considère pas comme un artiste, mais comme un artisan. C'est-à-dire que, en fonction des goûts de la personne, de l'endroit et du support sur lequel on me demande, que je fabrique une image en conséquence. Quand je travaille pour la presse, par exemple, je vais pas travailler de la même façon que je travaille en mariage. Quand je travaille en presse, par exemple, la première chose, c'est que j'évite d'utiliser le flash. Je fais pas de l'événementiel. Et souvent, comme c'est des petits formats d'images, des fois, il y a 15 jours de ça, j'avais une photo qui faisait 1,5 cm sur 1, quoi. Et donc, je travaille avec un 12 millions de pixels. C'est très amusant.
Tu n'en jettes jamais que 11 millions.
Exactement. Et donc voilà. Et sur certains supports, je sais que je déclenche pas au flash, que j'utilise la lumière qui est présente, quitte à avoir des hautes lumières un peu cramées, alors que quand je travaille en mariage, par exemple, il me faut des images qui soient non pas aux lumières naturelles, mais avec lesquelles je fabrique ma propre lumière, que ce soit au flash, ou alors choisir mes angles de prise de vue vraiment sans... Mais quoi qu'il arrive, ça doit flasher. L'image doit être flashy. Après, tout dépend du support pour lequel je travaille, tout dépend de la personne qui me commande la photo, et tout dépend surtout de l'information qu'on me demande de retransmettre. Si je dois aller dans un cimetière, on va me demander « trouve des gens en train de rire ». Voilà, donc là, effectivement...
Là, tu fais comment?
Là, je cherche, et je ne reviens que quand j'ai la photo.
Mais quoi, là, tu vas demander à des gens qui sont sur place de jouer le jeu?
Ça
ou
peut...
tu vas vraiment attendre que... tu vas provoquer l'image ou
bon,
tu vas...
je disais ça un peu en plaisantant. Ceci dit, le principe, c'est que souvent, quand on nous envoie en prise de vue, en nous transmettant une idée qu'on doit retranscrire, et quand on arrive sur le terrain, c'est jamais ça. Et c'est justement là où il y a une grande différence... Si, par exemple, je travaille pour une commande d'information, je n'irai jamais provoquer une image qui n'est pas déontologiquement, c'est pas possible. Si je commence à bidonner mes images et à demander à des gens dans la rue, sachant que cette info va être retransmise par un journal, d'aller construire une image qui n'existe pas, personnellement, je vais mentir. Donc, quand c'est en mariage, ça peut être un peu différent. On peut fabriquer des images. Par contre, j'évite de construire des images. J'essaye d'avoir ce que j'ai sur le terrain. Par contre, effectivement, quand on m'envoie en prise de vue, on m'envoie des fois avec une idée en tête. Et quand j'arrive sur place, c'est pas du tout ça. Je me suis déjà retrouvé devant une porte. Et je devais photographier cette porte. Et je suis resté une heure devant la porte et j'attendais que de bonnes images se présentent. Certes, j'ai jamais eu l'image fabuleuse de cette porte, mais je suis revenu tout en me disant, il faut que j'ai la meilleure image de porte possible. Effectivement, la photo est parue. Ceci dit, ce ne sera pas la meilleure image que je proposerai. Mais voilà.
Et comment est-ce que tu sais justement, quand tu es là devant ta porte à attendre ou dans d'autres contextes, voilà la bonne image? Tu en fais beaucoup pour après pouvoir choisir, ou tu attends que l'instant décisif se présente, ou tu es un petit peu entre les deux?
Bon, il faut dire que quand même j'ai un minimum de culture de l'image. D'abord parce que ça fait plus d'une quinzaine d'années que je vais dans des expos photos, que avec ma mère je vais très souvent visiter le Louvre. C'est un de nos passe-temps favoris ensemble, d'aller comprendre comment sont construites les images, parce que tout a été inventé avant nous, même si la technique évolue. Donc j'ai une culture de l'image qui fait que je sais à peu près quel type d'image va plaire aux gens, et je suis capable de construire, voire même de reconstruire, c'est-à-dire que je peux arriver à 10 endroits différents et fabriquer 10 fois le même concept d'image.
Si je donne un exemple.
Eh bien écoute, c'est tout simple, donc je parlais forcément de cette porte. Il suffit de se mettre devant la porte, tout simplement, et d'attendre qu'une personne passe en vitesse lente, d'avoir une personne légèrement enfilée sur quelques millimètres, et d'avoir effectivement cette porte dans un coin de la photo, et de l'autre côté la personne qui passe. Je pourrais la fabriquer aussi bien devant une boîte de nuit que devant un petit chemin en montagne. C'est toujours la même image, c'est toujours la même construction, mais elle correspondra. Et si vraiment je n'ai fait aucune bonne image, celle-ci pourra avoir l'air professionnelle. Voilà. Même si en réalité c'est un concept qui maintenant a été utilisé. Après je vais essayer effectivement de trouver quelque chose, de trouver une plongée, une contre-plongée, quelque chose qui indique. Parce que bon, l'image qui avait été retenue, ça avait été une contre-plongée. Donc le but étant de ne pas cramer le ciel. Et j'avais pas réussi effectivement à ce moment-là à trouver vraiment quelque chose qui s'y passe. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui passait devant. Voilà, donc je peux reconstruire le même type d'image à quel que soit l'endroit, mais c'est vraiment dans le pire des cas.
Tu parlais à l'instant d'exposition et de culture de l'image. Par où commencer ?
Déjà la presse. Il suffit d'ouvrir un Géo, un National Géo, pour voir ce qui se fait de mieux dans un certain pan de la photographie, parce que c'est pas que ça. À côté de ça, il suffit d'aller dans une bonne librairie et de tomber sur toute une série de bouquins. Moi, je conseille effectivement la série Photopoche, qui contient énormément, donc qui compte toute la mémoire photographique. Et moi, j'ai une passion pour le travail de Don Michaels, par exemple, que je trouve très onirique. Voilà, et après, il faut aller dans des expos photos, et puis il faut pas hésiter à aller voir ce qu'ont fait les maîtres en peinture. En début 2006, je suis allé voir l'exposition Rembrandt-Caravage, tout le portrait d'une certaine époque est dit là-bas, et c'était fabuleux. Donc il faut s'intéresser à la peinture, il faut s'intéresser, et faut pas croire, on peut créer de bonnes images. Ceci dit, le monde de l'image avec ses limites, mais aujourd'hui avec les possibilités qui sont offertes, on n'invente pas grand-chose, mais à partir de ça, on peut se permettre déjà de savoir, bah tiens, une image se compose d'un cadre, comment est-ce qu'on peut remplir un cadre de telle façon, surtout que, contrairement à la peinture, effectivement, le photographe est limité au vivant la plupart du temps, et à partir de ça, il faut savoir effectivement ce qui est possible ou pas possible, parce qu'on est quand même limité par l'optique, on est limité par le cadre qui est généralement un cadre 2/3, voire 4/3. Voilà, donc le principe, c'est que il faut regarder comment les images des autres sont construites, essayer de prendre surtout, parce que sur Internet, on trouve de tout, donc vaut mieux aller directement à des sources fiables. Donc ces sources-là sont de grands photographes. Généralement, ces photographes sont publiés. Hein. Quand on aime faire du paysage, il faut trouver un bon photographe de paysage, regarder comment il fonctionne, même à l'occasion. Il y a la photographie animalière, il y a peut-être ces paysages, il y a Montier-Andière qui permet, quand on aime faire du reportage, il faut s'intéresser à ce qui se fait en reportage, regarder et puis après essayer d'y apporter sa propre touche.
On peut aller 25 fois à une exposition, si on ne sait pas comment l'aborder, on ne va pas nécessairement en retirer tous les enseignements qu'on pourra en retirer. Alors comment est-ce que tu conseilles de l'aborder ?
Eh bien, en fait, voilà, si une exposition est bien construite, généralement, on arrive avec assez d'informations, d'abord dans le catalogue de l'exposition, avec les légendes qui sont fournies en dessous des photos. Et donc, au final, normalement, on dispose déjà d'assez d'informations pour savoir, tiens, voilà, cette photo-là a été construite dans tel but. Et à partir de ce moment-là, se dire, bon, le photographe, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis des personnes à gauche, pourquoi ? Parce que lui se trouvait à ce moment-là. Comme disait Capa, si ta photo n'est pas bonne, c'est que tu n'étais pas assez près. Après, tout dépend effectivement des conditions dans lesquelles on travaille, mais si on dispose d'assez d'informations et qu'on essaye de comprendre, l'idéal étant d'avoir le photographe sous la main et de lui poser des questions, mais ce n'est pas toujours possible, donc d'essayer de comprendre quelles sont les conditions. Donc, pour en revenir sur le mariage, le principe étant, si on veut connaître les conditions dans lesquelles les images ont été construites, il faut aller voir un photographe de mariage et lui poser des questions. Mais pas arriver comme ça, de but en blanc, sur un mariage et se dire, bon, bah, je fais de bonnes photos en famille, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas d'autres bonnes photos dans une autre famille. Je pense que après, il y a un truc qui ne suit pas forcément dans les autres familles, et il faut se méfier de ça. Donc le principe, en fait, c'est de disposer d'un maximum d'informations. Il y a les légendes, il y a les catalogues, on se renseigne un peu sur le photographe, on se renseigne un peu sur le sujet qu'il a photographié, et on essaye effectivement de comprendre d'abord ce qui est dit dans la photo et ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire, par exemple, imaginons qu'on voit un reportage dans un hôpital, on imagine bien que le photographe n'est pas venu en faisant du bruit, que parfois il y a dû travailler avec de la souffrance, à savoir qu'il y a certains sujets où on se retrouve avec des gens qui ont une peine particulière, il faut dire l'enfer et le paradis des journalistes. À partir de ce moment-là, quand on sait effectivement qu'on va trouver une photo construite en plongée, qui est vachement dynamique, qui a été prise très près, c'est que le photographe a dû aller très loin dans l'approche pour avoir ça. Donc on peut disposer, en fait, en fonction des éléments qui nous sont offerts, d'un certain nombre de détails, se dire « Ah oui ». D'accord. Et se rendre compte, bon, on peut aller jusqu'à là, comme en même temps, moi, je ne serais pas allé jusqu'à là. Voilà.
Eh bien, Peter, merci de nous avoir accordé cet entretien.
Eh bien, merci beaucoup, Benoît.
Et à bientôt, peut-être.
À très bientôt. En tout cas, moi, je lis ton blog très souvent, donc je me fais toujours un plaisir de découvrir tous les nouveaux contenus que tu nous proposes. Je te remercie d'ailleurs, parce que c'est un travail qui est très prenant. Et félicitations à toi.
Merci.
Troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. De nombreux messages d'encouragement reçus, en particulier suite à l'annonce qu'on vient de dépasser les 4000 abonnés pour Déclencheur, et également pour l'épisode HDR qu'avait préparé Jean-Michel Sanglera. Vous êtes nombreux à avoir apprécié cet investissement supplémentaire d'un auditeur, de même pour Maude sur Lumini, sur les chambres. Donc des messages d'encouragement reçus de Michel, de Vince31, de Topics, de Blingo, de LLR, de Angone, de Daniel Urtubis, de LBA Photo, Photo Martial, Cyril Marcouillou, Manu, Mangouste, Beaubrun, DD23, Pierre du podcast de la Cabane au Canada, Alain, Louis Hatt, Martine Dajan et René Julliard. Merci de votre soutien. Sur le mini chambre photographique, une discussion entre Mathieu et Jonathan sur ce que signifie précisément basculer et décentrer. Comme Maud l'a expliqué, ces deux éléments essentiels pour la prise de vue, que sont l'objectif et le film ou le capteur, sont indépendants l'un de l'autre, peuvent bouger indépendamment l'un de l'autre grâce au soufflet. Contrairement au réflexe où le boîtier est rigide, et donc une fois qu'on a vissé son objectif, il ne s'est pas bougé par rapport au film, Et ces deux composants étant indépendants, ça veut dire qu'on va pouvoir les orienter différemment l'un par rapport à l'autre. On peut les aligner pour les avoir comme sur un réflexe, ou on peut les bouger l'un par rapport à l'autre, et ça entraîne un certain nombre d'effets optiques qui sera un petit peu long d'expliquer maintenant, mais qui vont permettre de contrôler la perspective du sujet ou qui vont permettre de contrôler la profondeur de champ. Antoine Magnier attire notre attention sur une exposition qui aura lieu début septembre sur les thèmes des friches industrielles. Il a mis le lien, je le reprendrai également sur le blog. Sur l'épisode HDR, une réaction très intéressante mais assez longue de Gabs, donc je vous invite à aller la lire dans son entièreté, j'en prends juste un petit extrait. Gabs attire notre attention sur le fait que le HDR étant très nouveau, c'est encore un peu un des territoires vierges de la photographie, et en particulier il insiste sur le fait que on peut bien sûr être attiré vers le HDR comme étant un effet, mais on peut également faire des photos HDR qui vont se présenter comme des photos traditionnelles, donc sans avoir cet effet de couleur à la vidoc. Toujours sur le HDR, Mickey recommande d'utiliser le bracketing, donc le fait que l'appareil va prendre automatiquement plusieurs photos en variant l'exposition pour constituer les différentes photos qu'on va assembler. Alain demande si c'est possible, donc Mickey a répondu. Mickey insiste sur le fait qu'on n'a pas toujours intérêt à pousser les manettes à fond et qu'on peut aussi chercher du réalisme. On revient sur cet objectif Sigma 50-150 que j'ai conseillé à Stan. Philippe me disant « Je suis un grand fan de déclencheurs, mais je suis déçu d'entendre que tu déconseilles l'achat du Nikkor 135 F2DC, qui est à son avis un des tout meilleurs objectifs de Nikon. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le contexte. Je déconseille cet objectif sur le D40. Je n'ai jamais voulu dire que ce n'était pas un bon objectif. Mais le D40 a besoin d'objectifs AFS pour pouvoir faire la mise au point. Franchement, personnellement, sur tous les boîtiers en dessous du D200 ou du D300 maintenant, idem dans les autres marques d'ailleurs, en dessous des appareils experts, moi je suis incapable de faire une mise au point manuelle correcte. Gus nous signale un test de l'objectif sur le site Photozone. Atos99 utilise cet objectif dont il est très content. Il trouve qu'il n'a pas à rougir face à son Canon EFS 17-55mm 2.8. Il signale également que l'objectif a été testé dans chasseur d'images, qu'il le trouve globalement bon. Enfin, pour clôturer avec cet objectif, Yann regrette qu'il n'y ait pas de stabilisateur embarqué. Au risque de me répéter, et je vous renvoie à l'épisode sur le choix d'un objectif, un objectif est toujours un compromis entre prix, performance et encombrement, et donc simplement Sigma a dû faire des choix. Mr. Saul complète la discussion sur le HDR en insistant sur le fait qu'il n'y a aucune raison de se limiter à 3 photos si ce n'est éventuellement la puissance de calcul de sa machine, et là il nous référence un logiciel au nom quasiment imprononçable, qui est un produit libre, et qui apparemment est capable de traiter de grandes quantités de photos comme ça. Je reprendrai le lien vers le logiciel sur le blog. Serge Rameli nous invite à visiter ses photos HDR des toits de Paris depuis le toit de Notre-Dame. Sur l'épisode Lumière d'été, Villard réagit en disant « Les cartes digigrées sont effectivement neutres, mais elles sont trop claires pour faire un contrôle de l'exposition, et donc il les trouve moins intéressantes qu'une ref-carte qui permet de faire ça en même temps. » Jean-Luc Ernst, en mai 2007, nous a expliqué dans l'édito de l'épisode où il est invité, pourquoi ces cartes ne sont pas à 18%. Je crois que c'est un argument tout à fait raisonnable. Mais si la mesure de l'exposition est importante pour vous, eh bien, faut vous tourner vers une autre carte. Sur l'épisode RAW Balance des Blancs, Mr. Saul indique que le capteur va exposer différemment les couches selon le choix de la balance des blancs. Alors désolé, mais sauf pour le D2X, qui est un cas bien particulier, ce n'est pas vrai. Le capteur enregistre dans le RAW de l'information sur laquelle aucun traitement de balance des blancs n'a encore été appliqué, comme expliqué dans le mini. Franck Doyen s'est d'ailleurs amusé à faire le test en prenant la même photo en RAW sous différents réglages de balance des blancs et il a constaté, c'est tout à fait logique, que quand on ramène les curseurs dans le logiciel à la même valeur, on obtient le même résultat sur l'image et les mêmes valeurs de mesure. Sur le même mini, RSA Godzilla se demande pourquoi il y a une option RAW plus JPEG si le fichier RAW contient déjà un JPEG, mais pour une raison très simple, la plupart des réglages sur un appareil numérique servent en fait à déterminer où on va faire un certain nombre de traitements. On a beaucoup de flexibilité, on en a en fait beaucoup de trop, parce qu'on n'a pas besoin de toutes les options effectivement. Gilles et Vincent calment un petit peu le débat en nous rappelant qu'en final en film on s'en sortait avec deux types de films, lumière du jour et artificiel, et qu'à moins d'avoir des besoins de couleurs très précises, on peut obtenir des résultats satisfaisants en variant simplement entre ces deux valeurs types. Je conclue avec le salon de la photo de Paris en profitant des commentaires de Baptiste Chevalentin Photo pour vous rappeler qu'on organisa une rencontre à cette occasion le samedi. Chevalentin demande dans quel format imprimer l'invitation. Vous l'imprimez dans n'importe quel format, en couleur, en noir et blanc, ça n'a aucune espèce d'importance. Tant que vous avez une copie, vous pourrez rentrer. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur le blog www.déclencheur.com. L'abonnement à un podcast est gratuit, ça signifie simplement que vous recevez tous les épisodes automatiquement. Toutes les infos pour ce faire sont sur le site. À bientôt !